histoire et conte.
L'héritage. Bien installé au volant de sa Mercedes, Conrad Berthier se dirigeait vers le village de Carted en Haute-Provence. « Si tout va bien, jeudi, je serai de retour au labo », pensa-t-il. Dommage d'interrompre une expérience aussi cruciale. Le principe d'incertitude d'Heisenberg risque d'en sortir pas mal ébréché et la possibilité de connaître la réalité en soi sera peut-être démontrée. Conrad Berthier s'autorisa un sourire, seul indice extérieur de son immense satisfaction. Le village était maintenant en vue. Il couronnait un promontoire de forme grossièrement conique, coiffé par une église de taille imposante. Un enchevêtrement de jardinets en terrasses, de tuiles romaines et de façades colorées couvrait les pentes. Des montagnes barraient l'horizon, tandis qu'en contrebas se déroulait une vallée tapissée d'un damier de champs d'orge, de vignes et de vergers. Le village provençal typique, marmonna-t-il. Mais pourquoi mon père ne m'avait-il jamais dit qu'il y possédait une maison ? Conrad Berthier gravit la route en lacet qui montait vers Carted, puis gara sa voiture à l'entrée du bourg. Sur un banc, quatre anciens contemplaient des joueurs de boules d'un âge certain. Son arrivée ne parut pas suffisante pour les distraire, car aucune tête ne se tourna. Un peu plus loin, quatre gargouilles aux expressions démoniaques, presque effrayantes, crachaient l'eau d'une fontaine. De l'autre côté de la rue, une rangée de maisons étroites, de hauteurs variées, exposaient leurs crépis roses, jaunes et verts d'eau aux yeux des passants. Tout était calme. Sur une bâtisse, une enseigne annonçait « La forge, bar, hôtel, restaurant ». Poussant la porte, Conrad y pénétra. La salle était grande. Seuls à une table, quatre hommes jouaient au domino, à l'argent. Derrière le comptoir, personne. « Bonsoir », risqua le visiteur. « Robert, un client. Vous désirez ?» demanda celui qu'on avait appelé Robert. « Un repas et une chambre pour la nuit. » Robert se leva et se dirigea vers le comptoir sur lequel il prit un registre. « Quel nom ?»« Berthier, Conrad Berthier. » Le gérant se redressa étonné. « Berthier, vous ne seriez pas parent avec André Berthier par hasard ?»« C'était mon père. » »« Le fils d'André ?» s'exclama l'un des trois joueurs. « Oui, mon père est mort la semaine dernière. Il m'a légué par testament une maison qu'il possédait ici. » Conrad s'installa à une table après que le patron lui eut servi un plat et une carafe. Il commença à manger. Le joueur qui avait parlé se leva et vint s'asseoir en face de lui. Une certaine dureté marquait son visage. « Que pensez-vous trouver ici ?» « Mais rien, je suis simplement venu visiter cette demeure qui désormais m'appartient. » « Vous devez être le genre d'homme qui cherche toujours quelque chose. Faites attention, on peut être brûlé par ses propres découvertes. »« C'est absurde, je ne cherche rien. Ce que vous dites n'a aucun sens. » L'homme le regarda fixement. « Ne perdez jamais de vue, jeune homme, que tout a un sens. » « Laisse donc ce monsieur, le russe, » dit Robert en apportant un plateau de fromage. « Tu vois bien qu'il est fatigué. » Le russe n'avait pas l'air plus russe qu'un autre. Ses yeux étaient bleus et quelques cheveux blonds ornaient encore sa calvitie. Cela avait dû suffire pour qu'on l'affuble de ce surnom. Il se leva et se dirigea vers la porte. « N'oubliez jamais, jeune homme, que la vie est désespérée. Désespérée, vous m'entendez ?» Conrad leva les yeux vers le russe sans rien dire, tandis que ce dernier sortait de l'auberge. « Un fou, » murmura-t-il. Cela faisait bien 3 ou 4 ans que le sourcier n'était plus venu nous voir, reprit un des 2 joueurs restants. Alors comme ça, il est mort ?
Le sourcier ? S'exclama Conrad.
Mais non, mon père était mathématicien. Pourtant, on l'a toujours appelé ainsi. Il avait trouvé de l'eau dans mon champ, d'ailleurs.
Les 2 hommes se levèrent pour quitter la salle.
Allez, bonsoir, Robert, lança celui qui n'avait pas encore parlé. Tout cela ne nous rajeunit pas.
À votre place, je ne m'éterniserai pas ici, lança l'autre en guise d'au revoir.
Conrad termina son repas sans se laisser troubler davantage par ses propos qu'il jugea délirants, puis monta dans sa chambre. Il se coucha et éteignit la lumière. Bientôt, il se mit à rêver. Redevenu enfant, il essayait d'escalader une immense montagne blanche constituée de blocs, toujours en mouvement, ressemblant à de gros morceaux de sucre. Tout en haut, une cascade produisait une écume formée de petits cristaux qui s'amalgamaient pour finir par donner des blocs blancs. Le ciel était d'un bleu éblouissant.
« Voilà donc la source de la matière, » se dit-il en levant les yeux. « J'y suis presque. »
Mais il progressait difficilement. Le sol était instable et se dérobait constamment sous ses pieds. Une faille gigantesque apparut. Il n'avait pas le choix et devait essayer de la franchir en sautant. Son bond fut insuffisant et il se retrouva au fond du gouffre, indemne. Une corde bicolore déroulée sur le sol attira son attention.
Un serpent ?
Il hésita, puis l'empoigna, la tira et la déterra progressivement tout en la suivant comme un fil d'Ariane. Progressivement, il sortit de la faille puis de la région des cubes blancs. Le terrain devint de moins en moins accidenté, jusqu'à ce qu'il atteignît un désert de sable. C'est alors qu'il se réveilla.
« Ouf, ce n'était qu'un rêve », articula-t-il en s'asseyant dans son lit.
Un bruissement lancinant qui emplissait la chambre attira alors son attention.
On dirait quelqu'un qui gémit.
Mais non, ce n'est que le vent dans les feuilles des platanes, se persuada-t-il en se recouchant.
Il se redressa brutalement. Il n'y avait pas de platanes, ni d'arbres dans la rue.
D'un seul coup, des yeux dont l'éclat perfora tout son être apparurent à la fenêtre. C'étaient 2 grands yeux noirs surmontés d'épais sourcils foncés. Ils semblaient n'appartenir à aucun visage.
« Je deviens fou, moi aussi, se dit-il. Mais j'en aurai le cœur net. »
Il se leva, s'habilla rapidement et descendit dans la rue. La place était déserte et il faisait sombre. Seules quelques fenêtres éclairées par des couche-tards jetaient leur faible lueur dans la rue. La fontaine continuait à émettre son chant. Une ombre glissa furtivement le long des façades et s'enfuit dans une ruelle qui pénétrait au cœur du village.
Conrad se précipita à sa poursuite.
La ruelle se terminait en T et l'ombre tourna à gauche, puis à droite dans une autre rue, toujours poursuivie par Conrad. À chaque fois qu'il se rapprochait d'elle et pensait l'atteindre, elle accélérait brutalement et le distançait à nouveau. Il courut durant un temps qui lui parut infini dans cette voie qui lui semblait constamment s'étirer. L'ombre disparut. Il s'appuya sur le rebord d'un des murets qui limitait le village pour reprendre son souffle et contempla la vallée au-dessous de lui. Une demi-lune s'était levée et les champs s'étaient revêtus d'un bleu diaphane. Il se pencha pour découvrir une hauteur vertigineuse.
« Tout cela ne tient pas debout, se dit-il.
Ce village ne s'étend pas sur plus de 200 mètres de large. Ne serais-je pas encore en train de rêver ?»«
Alors, vous avez trouvé ?» demanda une voix.
Il se retourna. Le Russe, à la fenêtre d'une maison voisine, en pyjama à rayures verticales, l'observait d'un air sévère.
« Trouver quoi ?
Pourquoi la vie est désespérée ?
Écoutez, ce n'est pas le moment. »
Mais l'autre poursuivit.
« À cause de l'espoir, vous m'entendez ?»«
L'espoir, » hurla-t-il. « Prenez à gauche, en direction de l'église, » ajouta-t-il en refermant la fenêtre.
« À gauche ?» répéta Conrad, hébété.
Il découvrit en effet un passage
où deux hommes de front n'auraient pu se croiser, et s'y engagea. Les murs s'écartaient et se rapprochaient, donnant à Conrad une sensation pénible d'écrasement proche. Il parvint à l'église qu'il contourna. Le boyau s'élargit définitivement pour se transformer en escalier aux larges marches qui lui permirent de redescendre. Dans une petite rue, il aperçut une jeune femme blonde qui marchait en lui tournant le dos. « Attendez » cria-t-il, mais elle disparut presque aussitôt. « Rue Torte » lit-il sur une plaque en se dirigeant vers l'endroit où la femme s'était évaporée. « Mais c'est là que se trouve la maison ?» Au numéro 14, il s'arrêta. Tout était clos, des volets rouges fermaient les trois niveaux de la bâtisse. Il écarta légèrement l'unique persienne du rez-de-chaussée et fit sauter le crochet qui la retenait. Ayant cassé un carreau, il ouvrit la fenêtre. À l'intérieur, tout était obscur. Il fit jouer en vain un interrupteur, gratta une allumette et découvrit une lampe à pétrole qu'il alluma. Des tableaux et des tentures ornaient la pièce. C'était une sorte de grand salon, mais sans âge. Certains objets pouvaient avoir plusieurs siècles d'existence. Il passa dans la pièce voisine. Sur un mur, un puits grandeur nature avait été peint. Des rangées de livres couvraient les trois autres côtés. Il feuilleta quelques ouvrages. La science et la radiesthésie d'Yves Rossard, les arts de la divination de Frédéric d'Alembert, les phénomènes télépathiques de Michael Ornando. La plupart des recueils traitaient de l'irrationnel, parapsychologie, magie, sorcellerie, astrologie. Certains, très anciens, étaient écrits en latin, d'autres en grec et quelques-uns en hébreu. « Que veut dire tout cela ?» s'exclama Conrad, surpris. « Jamais mon père ne m'en a parlé. » Sur un rayon, une lettre portait la mention « À n'ouvrir qu'après ma mort ». Il l'ouvrit fébrilement. Une feuille de papier sur laquelle était griffonné un message enveloppait quelques photos et trois pages manuscrites. « Cette maison appartenait à mon père, au père de mon père et au père du père de mon père. Tu devras tenir son existence secrète jusqu'à ta mort et la léguer à ton fils ou ta fille aînée. Si tu n'as pas d'enfant, transmets-la à celui qui t'en paraîtra digne. » Puis il prit la première photo. Florence Dartout épouse André Berthier le 8 janvier 1945, lut-il au dos. Il éprouva le brusque besoin de s'asseoir. C'était seulement 6 mois avant sa naissance. Se ressaisissant, il examina le cliché. Ainsi, voilà comment était ma mère. Une deuxième photo montrait un officier allemand prisonnier et entouré de 4 résistants. Il déchiffra au dos. Le capitaine Conrad von Schlüter, capturé par le Russe, Robert, Vincent et Félix, la veille de son exécution, le 17 novembre 1944. « Les joueurs de domino », murmura-t-il. La troisième photographie représentait une femme et un officier allemand assis dans l'herbe, Florence Dartout et Conrad von Schlüter surpris au col de Munis, lut-il. Avidement, il commença la lecture des feuillets qui accompagnaient les instantanés. Son émotion était telle qu'il se mit à marcher de long en large dans la bibliothèque ésotérique, tout en prenant connaissance des informations posthumes que lui livrait son père. Nous nous sommes connus dans ce village où nous nous étions réfugiés pendant la guerre. Nous étions fiancés depuis plus d'un an quand arriva ici le capitaine von Schlüter. Il avait été blessé grièvement en Biélorussie et affecté dans la région pour sa convalescence. Sa jambe droite était complètement raide. Ce n'était pas un homme comme les autres. Il était discret, distant et respectueux. Sa connaissance des poètes français et allemands était surprenante. S'il n'avait pas porté un uniforme, on n'aurait jamais pu voir en lui un ennemi. Souvent, il partait à cheval le matin, en solitaire, et, méditant quelques pensées secrètes, passait sa journée à errer sur les crêtes. Il semblait miné par une tragique détresse, une détresse qui n'aurait été ni allemande, ni française, ni d'aucun pays. Ta mère... Frappé de stupeur par ce qu'il découvrait, Conrad chancela. La lampe à pétrole lui échappa des mains tandis qu'il tentait de s'appuyer sur le mur où figurait le puits en trompe-l'œil. Mais il ne rencontra que le vide et bascula dans l'ouverture sombre tandis que le tapis de la bibliothèque s'enflammait. « Alors ?»«
J'espère. »«
Quoi ? » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Une rencontre, peut-être. Un changement. Un événement qui fasse que les choses se modifient autour de moi. »«
Tu n'es donc pas heureux ?»«
Non, du moins pas totalement. »«
À cause de ce que tu attends de l'avenir, peut-être ?»«
C'est possible. N'est-il pas humain de toujours désirer un mieux ?»«
Oui, mais quand l'événement attendu nous déçoit, le désespoir remplace l'espoir. »«
Que proposes-tu donc ? » demanda-t-il.
« Le désespoir, l'absence d'espoir. »«
C'est impossible. »«
Non,
c'est la seule façon de goûter le présent. »«
Si tu espères, une partie de toi est détournée de l'instant vers un futur idéal qui ne se réalisera peut-être jamais. »«
On ne peut vivre sans projet, » répliqua Conrad.
« Bien sûr, mais le projet de construire une maison ou de faire pousser du blé est une chose, celui d'être heureux, une autre. » Espérer revient à différer ta conscience d'être jusqu'à ce que les circonstances te paraissent favorables pour t'autoriser à exister. Mais elles ne sont jamais favorables.
Ou bien, elles le sont constamment, c'est au choix.
Conrad était troublé. Toute sa vie, il avait vécu en fonction d'un but. Réussir tel examen, être intégré dans une équipe de chercheurs, concevoir des expériences fructueuses, élaborer des théories. Et voilà qu'elle essayait de réduire tout cela à néant.
« Espérer, c'est fuir », martela-t-elle comme si elle avait suivi ses pensées.
« Tu vas trop loin », lança-t-il choqué. « L'espoir m'a du moins permis d'obtenir des résultats.
Dans ton travail, mais dans ta vie. »
Elle cessa de le regarder pour contempler le ruisseau qui coulait à leurs pieds. Elle était ce ruisseau. Le vent faisait frémir les branches du cèdre sous lequel ils étaient assis. Elle était ce cèdre. Une mésange bleue faisait sonner sa tierce au sommet du mélèze voisin. Elle était cette mésange. Elle porta à nouveau les yeux sur lui. Il paraissait absorbé dans des réflexions infiniment compliquées.
« Tout ce qui n'est pas vécu dans le présent est perdu, » murmura-t-elle.
« Ne pas vivre totalement dans le présent, cela signifie se laisser diriger par le passé ou par l'avenir, par les buts que tu t'es fixés. Cela signifie ne pas être libre, ne pas être tout court. »
Il se leva. Cette conversation l'indisposait, le torturait même. Il voulait partir. Pourtant, quelque chose encore le retenait.
Être tout entier dans le présent, il fit une pause.
Cela me fait peur.
Elle sourit. Il avait mis le doigt sur la clé. La peur. La peur d'être libre, bien sûr. La peur de se connaître.
La peur.
De quoi ai-je peur, au fond ? S'interrogea-t-il.
Il essaya de raisonner. De perdre ou de découvrir quelque chose ?
Il la regardait fixement, mais son regard portait en réalité sur l'horizon. Son esprit travaillait dans maintes directions sans trouver de porte véritable, pris dans un labyrinthe mental.
Fuir l'éphémère, c'est fuir la vie, souffla-t-elle.
Ce que tu sens existe, prends-le en compte. Tu recherches l'immuable, l'éternel, la réalité, et pendant ce temps, la vie s'écoule. La vie est là, dans le creux de ta main. Elle n'est ni hier, ni demain, elle est là. Accepte cela et tu savoureras éternellement le présent.
Cette fois, c'était elle qu'il fixait.
Elle me fait peur, pensa-t-il.
Cela signifie renoncer à comprendre les lois immuables de l'univers, articula-t-il, le regard sévère.
Elle partit d'un éclat de rire.
Mais la loi de l'univers, c'est d'être en accord avec ce qui t'entoure à chaque instant. Ne veux-tu pas jouir aussi du monde sensible ?
Si, mais, bredouilla-t-il.
Alors tu n'as qu'une issue, l'absence de crainte.
Conrad fit quelques pas. Il était bouleversé. Tout son monde vacillait. Il entrevoyait soudain une autre manière de vivre sur d'autres fondations dont il ne percevait pas encore le contour.
« Il faut que je réfléchisse, » lâcha-t-il sans se retourner et sans comprendre que c'était le seul mot à ne pas prononcer. Il marcha quelques minutes, contemplant la pointe de ses pieds. « Vois-tu, commença-t-il en faisant demi-tour, je me disais que... » Elle avait disparu. Il fit le tour de l'arbre, descendit en courant vers le ruisseau, gravit à toutes jambes la colline jusqu'à son sommet. Rien, personne. Elle s'était évanouie. Il s'assit au pied du cèdre et pleura longuement. « Je dois rentrer, » décida-t-il enfin. Il reprit le chemin qui traversait le vallon et, au bout de quelque temps, aperçut les premières maisons. Il s'engagea dans une rue, tourna à droite, puis à gauche, comme un automate. Bientôt, il aboutit à une impasse. « Ne suis-je pas déjà venu là, pourtant ?» se dit-il. Il remarqua une porte cochère. « À moins que je ne sois arrivé par ce passage. Oui, ce doit être ça. » Il s'y engouffra. Au fond d'une cour intérieure, il découvrit une ruelle minuscule entre deux maisons. Il s'y engagea. Bientôt, la ruelle se transforma en couloir sombre. Il continua à progresser en se guidant avec les mains et parvint à des escaliers qu'il gravit. D'autres couloirs, obscurs, les prolongeaient. Il marcha longuement et aboutit, après avoir ouvert une porte, à un palier sur lequel donnaient d'autres portes numérotées. Deux escaliers y aboutissaient, l'un vers l'étage supérieur, l'autre vers le bas. Conrad descendit les marches lentement et pénétra dans la salle du restaurant de l'hôtel. Quatre personnes étaient attablées autour de leur café. Une boîte de dominos occupait le centre de la table. « Bien dormi ?» demanda le gérant. « Coussi-coussa, j'ai fait des rêves étranges. Le rosé, sans doute. » Vous avez peut-être été réveillé par les cris, coupa l'un des clients. Félix veut dire à cause de l'incendie. Cette nuit, une maison a brûlé, pas loin d'ici, et les voisins ont hurlé. Heureusement, elle était vide. Enfin, le feu a été maîtrisé. Un café noir, commanda Conrad en s'écroulant sur une chaise. Un des quatre personnages se leva et les mains appuyées sur le dossier de la chaise qui faisait face à Conrad, lui dit. « Pourquoi cette tête de désespéré ? Ce n'était pas votre maison, que je sache. »« Laisse ce monsieur, Roger, » dit le gérant. « Tu vois bien qu'il a mal dormi. »« Mal dormi, » s'indigna Roger. « Et nous qui avons éteint l'incendie, et le propriétaire de la maison, que lui reste-t-il, maintenant ?»« Le souvenir de l'espoir, peut-être, » murmura Conrad. Thank you.